Il est midi sur France Culture. Bonjour à tous. À midi, on retrouve Ludovic Piétenu pour quelques titres du journal de 12h30. Bonjour Ludovic.
Bonjour Caroline et bonjour à tous. Quel visage les députés ont-ils donné à la loi travail? Ils ont retenu 10% des 5000 amendements. Annabelle Grelier nous dira si cette loi a vraiment changé. Le 49-3 est sur toutes les lèvres. Le passage en force du gouvernement n'est pas du goût de tout le monde. Mais est-ce vraiment un passage en force? Est-ce vraiment un déni de démocratie? Question posée au constitutionnaliste Didier Mauss, vous l'entendrez. À l'Assemblée, dans tous les camps, sur tous les bancs, on va utiliser toute la procédure. Le gouvernement peut-il être censuré? Réponse à suivre de Christine Monclat. Et puis l'invité de ce journal sera le député écologiste Noël Mamère. Il publie un petit livre rouge intitulé « Contre Valls, réponse aux néo-conservateurs ». Avec lui, nous reviendrons aussi bien sûr, Caroline, sur les accusations d'agression et de harcèlement sexuel concernant l'un de ses collègues, l'écologiste Denis Baupin. Une manifestation est d'ailleurs prévue en fin de journée devant l'Assemblée. On entendra l'une des organisatrice, rendez-vous à midi et demi. La grande table à présent, c'est à vous, Caroline.
Merci, à tout à l'heure Ludovic. Si vous nous suivez depuis lundi, en tous les cas c'est votre cas, à vous Ludovic, vous savez que nous avons en première partie une semaine internationale à l'occasion du passage en France de quelques invités de renom que nous ne voulions pas manquer à la grande table. Aujourd'hui, c'est une écrivaine qui a accepté de s'asseoir avec nous avant de se rendre au festival étonnant Voyageurs de Saint-Malo qui se tiendra du 14 au 17 mai. À l'âge de 10 ans, elle a fui le Vietnam avec d'autres boat people pour rejoindre le Québec. Rue et Man, ses deux premiers romans, ont reçu un accueil critique et public enthousiaste. Elle publie son troisième roman dans lequel on retrouve ses motifs principaux, l'exil, la vie nomade, la langue, la cuisine et bien sûr l'amour. Kim Thuy est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Publié Kim Thuy, Vie chez Liana Lévy, V-V-I, aussi court que les titres précédents. Vous écrivez en français, mais vos titres sont des titres, me semble-t-il, en vietnamien.
Oui, mais rue.
Man, vie.
Oui, mais rue, c'est un mot en français, en fait.
Ah, rue, c'est un mot en français, c'est vrai, on l'utilise au Scrabble.
Oui, tout à fait. Et puis dans les mots croisés, c'est très utile de connaître ce mot. Et je ne savais pas, en fait, que ça existait. Bon, quand j'ai choisi pour le nom du restaurant, en fait, j'avais un restaurant et puis on a cherché au lieu de rue R-U-E, on a enlevé le E et on se demandait si ça existait en français. Et puis
miracle, oui.
Oui. Et en vietnamien aussi, ça a un sens. Je vous dirais, c'est assez poétique en fait en vietnamien. Pour moi, en tout cas, qui ne parle pas vietnamien dans le quotidien, je trouvais que le mot bercer un enfant jusqu'au sommeil était magnifique. Et puis de l'autre côté, rue qui voulait dire petit ruisseau, bah les deux fonctionnaient.
Bah c'est comme vie. On peut le voir si on l'entend seulement. On peut imaginer le mot français vie, V-I-E. Ce oui. Roman est un roman de vie malgré tout. Mais vie, c'est aussi le nom de votre narratrice Bao Vi.
Oui.
Qui veut dire précieuse, minuscule, microscopique. Comment est née cette petite, toute petite narratrice?
Oui, alors elle est née pendant une période plutôt difficile au Vietnam, donc vers la fin de la guerre. La guerre ou la présence américaine, hein, parce qu'on ne sait jamais si on appelle cette guerre la guerre vietnamienne ou la guerre américaine, mais vers la fin de la période américaine et elle a grandi en fait ses premières années à l'époque communiste, ce qui était aussi une période très très difficile et très très noire pour le Vietnam, et le pays entier est tombé dans une espèce de silence, je vous dirais. Les gens, pour se protéger et protéger ceux qu'on aimait, il fallait pas parler, il ne fallait pas entendre, il ne fallait pas voir. Et quelque part, oui, et dans la ville de Saïgon, où il y avait quand même quelques millions de personnes, on n'entendait plus la musique non plus, ni la littérature, les mots aussi étaient muselés. Et du coup, oui, elle est obligée d'être minuscule, d'être petite. Comme la plupart des noms vietnamiens, vous savez, quand les parents souhaitent que leur fille ait un teint plus pâle, ben les appellent Blanche ou Neige, et parfois les deux ensemble, Blanche Neige, et puis elle se retrouve avec le teint très foncé. Et dans ce cas-ci, Vi est toute petite, mais elle va avoir la chance de devenir très grande, en fait, d'abord physiquement, mais après la grande Vi, la Vi.
D'où on retrouve ce Vi veilleux.
Ouais, lui offre toutes sortes d'expériences et de rencontres qui vont lui permettre de grandir, justement.
Kim Thuy, comment ce livre s'inscrit-il par rapport aux deux précédents? Il y a un quatrième ouvrage, mais qui est moins un roman que les trois dont j'ai parlé, Rue, Man et Aujourd'hui Vie. Ce premier roman qui était Rue, paru aux éditions Libre Expression, chez vous au Québec en 2009, il a tout de suite été un best-seller au Québec, en France. Les droits ont été vendus dans plus de 25 pays. Il a été finaliste de plusieurs prix littéraires. Il a même obtenu des grands prix, le prix du gouverneur général, le grand prix RTL Lire, le grand prix du Salon du Livre de Montréal 2010. Man va être adapté au grand écran, j'ai vu ça. Donc hier, je posais la même question à Grégory Porter, qui était notre invité, jazzman, aujourd'hui, de ce succès. Est-ce qu'on se remet d'un tel succès? Est-ce qu'on arrive à écrire un troisième roman avec tout le calme et tout l'isolement? Est-ce qu'on se fait toute petite comme vie pour arriver à écrire un roman en oubliant ce succès, un moment, disons?
Ouais, je vous dirais que dans ma vie, jusqu'à maintenant, enfin depuis que je suis née, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été portée par tellement de gens d'événements et tous les métiers que j'ai fait dans ma vie, ça a été
Il y en a eu beaucoup, hein. Couturière, interprète, avocate, propriétaire de restaurant, chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision.
Et c'était toujours accidentel, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui me porte vraiment d'une roche à une autre. J'ai l'impression comme ça qu'on me bouge d'un métier à un autre. Et pour le livre, c'était la même chose. C'était un ancien client du restaurant que j'avais qui a apporté le manuscrit, qui n'était même pas un manuscrit parce qu'il n'y avait même pas de page et même pas de titre quand il a apporté le texte chez l'éditeur. Et le livre est devenu... le texte est devenu un livre. Un livre lu. Et je n'ai jamais compris, et je ne comprends toujours pas ce qui porte. Comment le livre est lu ou sinon interprété, je dirais, par les lecteurs, pourquoi ils touchent. Et donc, encore aujourd'hui, à chaque fois que j'écris, mon seul désir, c'est vraiment de vous présenter ce que je trouve beau. Alors, de vraiment partager la beauté du monde. Pas du monde, hein, parce que je vois vraiment trop peu. Mais voilà, les petits détails. Et donc, je continue à partager tout simplement ce que je vois.
Cette beauté dont vous parlez et qu'on retrouve d'ailleurs dans le choix des mots qui sont les vôtres, Kim Thuy, vous la partagez avec une autre écrivaine, mais qui est française, elle, d'origine vietnamienne, qui est Linh Dale.
Ah oui.
Et je voudrais vous proposer d'écouter Linh Dale dans cette archivina de France Inter qui date de 2011. Écoutez ce qu'elle dit.
Je crois que j'ai toujours essayé, du moins, d'écrire des livres qui gardent ce que Suran appelait une saveur de chair et de sang. Les mots doivent être en quelque sorte habités par une, malgré tout, par une pulsion de vie. Et il y a un effort pour tendre vers un dépassement de soi. Et finalement, si je... J'ai l'impression parfois de m'exiler un peu chaque fois que j'écris. Je reviens toujours vers moi-même et vers une sorte de presque d'allégresse à me sentir délivrée de quelques obsessions.
Kim Thuy.
Dans mon cas, je vous dirais, c'est une jouissance quand j'écris parce que d'abord, j'aime les mots. Parce que je n'en possède pas beaucoup. Vous voyez, je ne maîtrise aucune des trois langues dont j'essaie de parler.
C'est quoi la troisième?
Le vietnamien, l'anglais.
Et le français.
Et le français, oui. Et le français est probablement la seule langue que j'ai l'impression que je maîtrise un tout petit peu. Et du coup, oui, c'est vraiment d'être avec les mots. Et parfois, l'histoire est racontée pour l'amour d'un seul mot, comme le mot rebelle, par exemple, que je ne pensais pas au début. Vous voyez, je lisais toujours avec le dictionnaire. Mais pour le mot rebelle, je n'avais pas cherché, parce que j'étais certaine d'avoir compris. C'est un mot qui semblait simple. Rebelle veut dire belle de nouveau. Vous voyez, j'ai analysé le mot de cette manière, et du coup j'ai adopté le mot et je trouvais que le français nous donne la possibilité de rédemption, qu'on peut redevenir belle. Parce qu'en vietnamien, ma mère me disait toujours que tu peux pas perdre la beauté en disant des bêtises, en posant des gestes méchants et tout ça. Et j'ai le français nous donne cette option. Et en plus, il y a un mot spécifique pour ce geste de rédemption. Et du coup, j'ai écrit des textes comme ça en utilisant le mot rebelle en ce sens-là, de la beauté retrouvée. Évidemment, j'ai eu beaucoup de zéros. Hein.
Vous parlez de la langue et de la façon dont les mots viennent à vous, Kim Thuy. Il est aussi question de la pensée, de les images même, et de tout ce qui fait la culture d'un individu. Votre culture, elle est double, elle est triple, elle est multiple d'ailleurs. Vous nous faites voyager dans ce vie à peu près partout dans le monde. On fait le tour du monde avec votre livre. Est-ce que vous diriez que cette écriture qui est la vôtre, au-delà de la langue, mais cette écriture qui est la vôtre, est empreinte de toutes ces identités, de toutes ces couches successives d'identités qui sont les vôtres aujourd'hui?
Ah, tout à fait, parce que d'une langue à l'autre, quand on en a quelques-unes, on peut faire le comparatif, je vous dirais, et quand on a l'autre, on peut apprécier encore mieux ce qu'on possède en premier lieu. Donc il y a des mots, vous savez, comme le mot « home » en anglais, n'existe pas.
Sur lequel Toni Morrison a magnifiquement écrit.
Ben oui, et étrangement, en français, on n'a pas un mot équivalent du mot home sweet home. C'est impossible.
Le foyer, la maison, mais on a envie de faire un geste qui.
Oui. Et tout de suite, hein, l'expression sweet home, on le voit. Alors que en français, chez soi, maison, résidence, il y a rien qui traduit ce champ sémantique en fait du mot home. Alors que en français, on a le mot jouissance. Et j'ai découvert qu'en anglais, il n'existe pas de mots de traduction pour jouissance. Et puis en vietnamien, j'ai découvert également que le mot baiser, un baiser, no home, c'est vraiment un bourgeon de baiser. Donc quand on donne un baiser, ça s'appelle un bourgeon. Et d'une langue à l'autre, je crois que je possède de plus en plus d'images en creusant, en comparant les langues. Et donc je découvre pendant l'écriture, je découvre énormément la richesse de chacune des langues et le travail, le plaisir, c'est de pouvoir les juxtaposer, les broder ensemble, vous voyez, de superposer justement les couches pour en faire quelque chose de nouveau, peut-être un cocktail, vous voyez, de mettre la menthe avec le rhum et la lime qui sont peut-être des ingrédients de des endroits différents, mais qu'ensemble, ça donne un goût particulier.
Comme votre narratrice vit, vous avez, vous, je le disais, quitté le Vietnam quand vous étiez enfant, et votre narratrice raconte dans Vie qu'elle y revient. C'est aussi l'histoire d'un retour au pays natal, et elle se raconte avec énormément de pudeur, comme un vestige de sa culture vietnamienne, puisque elle écrit. Vous écrivez, Kim Thuy, à l'opposé de la culture occidentale qui encourage l'expression des sentiments et des opinions, les Vietnamiens les gardent jalousement pour eux ou ne les verbalisent qu'avec beaucoup de retenue. Ça, c'est quelque chose que vous gardez en vous?
Maintenant, je vous dirais, jusqu'à maintenant, je pense que là, ça fait 37 ans que je suis au Québec, donc je suis devenue une Québécoise, si vous voulez. Et quand je suis retournée au Vietnam au tout début, justement, on pouvait m'identifier de très loin, hein, que je n'était pas vietnamienne. Déjà, dans les gestes, vous voyez, je vous parle avec les mains complètement en mouvement, alors que pour les Vietnamiens, le plus possible, la beauté, c'est de pouvoir se faire petite, et pour les femmes du moins. Et quand on regarde les peintures chinoises ou asiatiques, hein, même au Japon, la bouche des femmes était représentée par un tout petit point rouge, justement pour exprimer qu'une femme élégante était une femme qui ne s'exprimait pas trop. Et d'ailleurs, le hamburger au Japon était très difficile à vendre aux femmes au tout début. Donc ils ont développé un emballage où les femmes pouvaient se cacher derrière l'emballage. Aujourd'hui, hein, je vous parle, et sur l'emballage, il y a une photo de bouche. Comme ça, la bouche est toujours souriante et petite, et derrière, on pouvait ouvrir tout grand. Et au Vietnam, la même chose. Donc, encore aujourd'hui, les femmes qui parlent trop ne sont pas considérées comme étant des femmes élégantes, justement.
Et, donc, en ça, vous êtes plus québécoise, parce que vous parlez quand même.
Je parle beaucoup et je ris fort, en plus. Et normalement, quand on rit au Vietnam, justement, on met la main devant la bouche, alors que moi, bon, je montre toutes mes dents.
Il y a un dramaturge et metteur en scène qui est québécois, mais d'origine libanaise, qui est Wajdi Mouawad, qui vient de prendre la tête du théâtre de la Colline. Wajdi Mouawad se demandait effectivement d'où il était, s'il était québécois, s'il était libanais, s'il était tout cela à la fois. Il répondait à France Culture en 2008.
Je ne peux plus me poser la question d'où je suis, je peux poser la question où est-ce que je me sens le mieux. Ça, je peux répondre. Mais à la question d'où êtes-vous, je n'ai pas de réponse. Dire que je suis du Liban, oui, mais ce n'est pas vrai non plus. Ce n'est pas vrai non plus parce que quand je vais au Liban, je ne m'y reconnais pas. Dire que je suis québécois, oui, j'ai appris à faire du théâtre au Québec. Si j'ai pu être en colère au Québec. J'ai eu cette place-là que je n'aurais peut-être pas eue en France. La France est plus dure. Mais en même temps, je ne suis pas québécois, c'est pas vrai. Je veux dire, moins 40, c'est pas moins, quoi. Bon. Et ben, je suis français, oui, parce que j'ai appris à réfléchir en France, mais je ne suis pas français. Mais je peux me poser la question, où est-ce que je suis le mieux? Et peut-être la question, où est-ce que je suis le mieux, elle se déroule à deux endroits différents, dans un local de répétition, c'est-à-dire dans un lieu où la création est totalement dans la quête, et au bord de la Méditerranée. Peut-être parce que les éléments, parce que je retrouve les éléments, je retrouve le climat.
Et vous, Kim Thuy, où vous sentez-vous le mieux?
Partout. Mon problème, c'est peut-être là, mais je viens d'entendre quand même un petit accent québécois là, quand il a dit « c'est vrai ». J'ai reconnu le québécois en lui. Je suis peut-être trop caméléon. Vous voyez, quand je suis au Québec, ben, je parle vraiment avec l'accent québécois. Et ça fait peut-être 48 heures que je suis ici et nécessairement, j'adopte l'accent d'ici. Et je suis incapable, en fait, de garder l'accent, mon accent. Mais enfin, j'en ai pas un. Et la même chose pour le vietnamien. Je viens du Sud, donc je parle à la maison avec l'accent du Sud. Mais j'ai eu la chance de retourner au Vietnam travailler dans le Nord. Donc, il y a beaucoup de mots du Vietnam moderne, pas moderne, mais contemporain d'aujourd'hui, que j'ai appris dans le Nord, dont je prononce ces mots avec l'accent du Nord. Et en plus, j'utilise les mots du Vietnam des années 90-2000 et non pas des années 70. Vous voyez, donc je suis partout et j'aime bien en anglais aussi. J'adore parler en anglais et lire en anglais. Et oui, je me sens toujours chez moi. Comme tout à l'heure, j'ai donné rendez-vous à quelqu'un et j'ai dit oui, tout à l'heure, je vais être de retour à la maison. Mais en fait, c'est l'hôtel et non pas la maison. Oui, alors j'aime trop.
Kim Thuy, il y a quelque chose que disait tout à l'heure Lynn Dallet dans cette pulsion de vie. C'était aussi une façon, disait-elle, de se délivrer de quelques obsessions, de se tourner vers l'allégresse. Ça me faisait penser quand même à votre livre À vie, parce que ce livre, encore une fois, est empreint de bouillonnants sentiments. Il y a une pulsion de vie qui pousse cette petite fille emmenée sur un bateau à l'âge de on sait pas, 8, 9, 10 ans, voilà, une dizaine d'années, dans des conditions terribles et qui raconte aussi de façon absolument terrible les conditions de départ de certains des amis, de la famille de ses parents. Et puis il y a la façon dont elle construit sa vie, grâce en particulier à ses sens. Il y a les odeurs, il y a les saveurs, il y a beaucoup la cuisine, avec ses souvenirs d'enfance, avec beaucoup, beaucoup de cuisine. Le précédent, Man, était bien sûr, votre livre, Man, était un hommage à la culture culinaire. On sait que vous avez été vous-même restauratrice.
Oui. Bon.
Mais là aussi, il est beaucoup question de cuisine. Et donc, il y a ce formidable mélange de tout ça raconté avec beaucoup de concision, tout ça raconté avec beaucoup d'ellipses, avec beaucoup de réserve et beaucoup de pudeur. Mais cette écriture gustative est mélangée avec une écriture qui parle de la mort. Il y a ces deux choses-là que vous portez.
Oui, parce que je pense que la vie est contradictoire, hein, ou paradoxale du moins. Et justement, c'était ici à Paris que j'ai eu la chance de visiter une expo de Soulages. Et avant, vous voyez, quand on parle de lumière, quand les photographes parlent de lumière ou les caméramans parlent de lumière, je ne comprenais rien à la lumière, je ne voyais pas la lumière. Et c'est en visitant cette expo et voir les tableaux seulement en noir que j'ai compris pour la première fois ce que voulaient dire les gens quand ils parlaient de la lumière. Et parfois, je crois que ça prend ce comparatif et dans la vie, justement, je crois qu'aujourd'hui, si j'apprécie autant les mots, c'est parce que je n'en possède pas beaucoup, parce que justement, j'ai eu à apprendre une nouvelle langue à un âge plus tard, quoi, à 10 ans, c'est quand même assez jeune, mais je suis quelqu'un qui apprend très lentement, donc vous savez, il y a beaucoup de mots que je peux comprendre à la lecture pendant 20 ans, avant de pouvoir les utiliser verbalement ou même à l'écriture. Et donc, je pense que je voulais justement exposer cette vie qui est à la fois si belle et en même temps très cruelle. Mais j'ai appris de Tim O'Brien un livre qui s'appelle « The Things They Carried ». C'est un vétéran américain pendant la guerre du Vietnam qui est devenu un grand écrivain. Et il décrivait justement cette scène extraordinaire où le chapitre parle de la guerre. Comment parler d'une vraie guerre. Non, how to tell a true war story. Donc, je suis incapable de traduire correctement ce qu'il a dit, mais l'image qu'il a relatée, c'était des soldats qui marchent à la file indienne pour éviter les mines, les bombes et tout ça. Mais parfois, ils marchaient quand même sur une mine et il dit, en tant que, oui, quand on voit un autre soldat mettre son pied sur une mine, on sait très bien ce qui va se passer la seconde après, dès qu'il soulève le pied. Donc le sang qui gicle, le corps émietté, mais les yeux ne peuvent pas s'empêcher de voir la beauté de cette minime seconde quand le corps est poussé et suspendu dans l'air par la pression de la mine. Et cette image-là est angélique. Alors même si on sait l'atrocité qui arrive tout de suite après, on ne peut pas s'empêcher de voir. Et il faut s'accrocher en fait à ce moment-là pour pouvoir continuer à vivre, à survivre du drame suivant.
Est-ce que Kim Thuy, c'est avec cette philosophie de vie-là que vit cette fois votre héroïne, arrive non pas au Québec mais au Vietnam quelques 20 ans après son exil?
Tout à fait, parce que quand elle est retournée au Vietnam, évidemment, elle ne retrouvait pas le Vietnam qu'elle avait quitté. Le Vietnam a évolué, est sorti de la noirceur, est devenu lumineux de nouveau. Mais quand on a été enseigné ou sinon informé pendant toute son enfance et même son âge adulte, hein, que le Vietnam était un pays noir, ou sinon le seul souvenir qu'elle avait, c'est un pays noyé, ou sinon isolé. Et donc il fallait réapprendre. Et parfois, ce n'est pas seulement par soi-même, mais grâce à celui qui est à l'extérieur de nous, qu'on considère étranger. Et c'est pour ça que j'ai introduit ce personnage français. Et il devait être français parce
Vincent.
Que... Ben oui, Vincent. Parce que...
Qui est l'amoureux de vie.
Ben oui, parce qu'entre les deux pays, il y a ce lien. La France et le Vietnam, peu importe qu'on appelle ça un mariage forcé ou pas, il y a eu mariage entre ces deux pays, entre la France et le Vietnam. Et très souvent, quand on parle de la France, on parle de la période de la colonisation, et on considère toujours que le dominant, hein, est celui qui est méchant. Bon, et je voulais montrer ici que non, il y a eu amour également de la part de celui qui vient dans le pays, et veut pas, celui qui habite le pays aime le pays et est influencée par le pays. Et donc, ce Vietnam va se révéler à la vietnamienne par un Français et non pas l'inverse.
C'est justement une romancière venue en France, quittant son Vietnam natal, que je voudrais vous faire écouter maintenant. Vous la connaissez nécessairement, Duong Thu Wong.
Oui.
Duong Thu Wong était au micro de Laure Adler en 2014 et elle parlait de son regard sur le Vietnam.
Sứ sở của tôi, nó không phải là sứ sở thần tiên. Đó là một nơi nghèo khổ, bụi bặm.
Mon pays n'est pas un pays de rêve ni un pays de fées, c'est un pays pauvre, sale.
Một dân chúng luôn luôn kém phát triển và thiếu may mắn trong lịch sử.
Un peuple malheureux et malchanceux.
Và tôi coi như dân tộc của tôi là dân tộc lỡ tàu.
Et pour moi, je considère que mon peuple est un peuple qui a raté son train quelque part.
Nhưng vì tôi là thuộc về nó, cho nên tôi vẫn phải yêu nó. Và tôi vừa yêu dân tộc của tôi vừa ghét dân tộc của tôi.
Mais je fais partie de ce peuple. Alors, je l'aime beaucoup. Mais je suis partagé, c'est-à-dire que dans cet amour, il y a aussi de la haine.
Kim Thuy.
Tout à fait. Il y a ce paradoxe. Hein. Mais c'est pour ça que ça prenait cet étranger de l'extérieur, ou sinon un regard de l'extérieur pour que, par exemple, cet ornithologue, c'est ça, celui qui étudie les oiseaux et tout ça, cet explorateur, je l'ai rencontré dans la vraie vie. Et c'est lui qui m'a révélé qu'au Vietnam, il y avait des espèces d'oiseaux pas encore répertoriées. Et c'était eux, les explorateurs, qui nous ont révélé ce Vietnam caché qu'on a trop appris à détester. Ou sinon, on était trop proches pendant toute cette guerre civile. Hein, donc, c'était difficile, d'aimer l'autre, d'aimer le Nord, d'aimer le Nord quand on est du Sud et d'aimer le Sud quand on était du Nord parce qu'on était trop divisés. On s'était trop dit de bêtises, je crois.
Vous parlez, Kim Thuy, des relations proches, malgré tout, entre les Français et les Vietnamiens. Ce personnage de Vincent qui est vraiment l'amour fou de vie dans ce livre. Eh bien, pour terminer, comme un petit clin d'œil, je voudrais vous proposer d'écouter une romance qui s'est intéressée à ce pays, c'est Marguerite Duras.
Ah, ben oui.
Mais Marguerite Duras, il faut vraiment tendre l'oreille, parce que Marguerite Duras, dans cette Archivina de 1991, a une voix un peu fatiguée, sans doute vieillie, elle est morte 5 ans plus tard, elle est assez difficile à suivre et à comprendre, mais écoutez, c'est assez joli par rapport à ce que vous écrivez.
J'étais naturellement vietnamienne. Le premier homme que je désirais était vietnamien. C'est Anne. C'est l'homme. Et jamais, jamais, je pourrais l'oublier, jamais. La douceur, la beauté, aussi la peau, incroyable. Un homme de soi. La gaieté. Le H que je mets à Tan, en le sang. C'est pas Tan, c'est Tan. Quand j'arrivais à Paris, j'allais dans des restaurant comme ça, vietnamien. Les gens étaient suffoqués, ils disent, comment ça se fait que vous avez l'air française? Je ne pensais même pas que j'avais appris la langue. Je pensais que c'était la mienne. Je prononce encore bien, mais j'oubliais beaucoup.
Vous ne prononcez pas encore bien, vous n'oubliez rien du tout. Les réactions, ce que vous venez d'entendre.
Et vous savez, quand j'étais au Vietnam pendant quelques années, on me considérait comme étant une banane, c'est-à-dire jaune à l'extérieur et puis blanche à l'intérieur. Mais Marguerite Duras, je crois qu'elle était un œuf. Elle était jaune à l'intérieur. Oui, et il y a eu beaucoup justement de gens que j'ai rencontrés qui aiment le Vietnam de l'intérieur comme elle. Et Marguerite Duras, en fait, c'est elle qui m'a fait découvrir, ou sinon, qui m'a offert cet amour pour la littérature. Le premier livre qu'on a acheté quand on est arrivé au Canada, c'était L'Amant de Marguerite Duras, et je l'ai appris par cœur de la première page à la dernière page, et on a fait des dictées avec ce livre, et je l'ai lu phrase par phrase avec mon oncle pour pouvoir bien comprendre le livre, et donc quand je l'entends comme ça, c'est une émotion Et elle était la première à me présenter un Vietnam romantique ou sinon romancé, vous voyez. Et presque une réconciliation avec le Vietnam. C'est pour ça que je vous disais que ça prenait quelqu'un de l'extérieur presque pour nous présenter notre propre pays.
Alors on va s'arrêter sur elle et sur vous. Merci beaucoup Kim Thuy d'être venue au micro de la Grande Table. Je rappelle le titre de ce livre « Vie » publié en français, donc chez Liana Lévy, où vous avez édité en français les autres de vos romans. Vous serez, je le rappelle, à Saint-Malo pour le festival Étonnant Voyageurs du 14 au 17 mai. Un grand merci.
Merci beaucoup.
Dans un instant, c'est le journal et la suite de la Grande Table.